Alors, Laurent Lapierre, je pense que vous connaissez bien l'invité qui vous a, qu'on a invité avec en même temps que vous, Jean-Luc Tremblay. Je ne crois pas que ce soit la première rencontre que vous ayez tous les deux. Ben alors présentez-le nous, tiens. Ça.
Bon ben alors.
Bonjour Jean-Luc Tremblay. Bonjour, je vais laisser Laurent Lapierre vous présenter.
Je vais juste vous dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse au leadership depuis très longtemps, qui a écrit des livres sur le leadership, qui fait une foule de conférences et une foule de formations sur le leadership et que ça a beaucoup de succès auprès des leaders. Peut-être que ça c'est suffisant pour vous dire que ça donne une bonne idée de l'attrait de Jean-Luc Tremblay.
Ah oui, alors Jean-Luc Tremblay, c'est à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Je pense que vous avez triomphé en tant que leader. Ça a été là que vous avez établi vos faits d'armes et que vous vous êtes fait reconnaître.
Ben, disons que c'est dans cet endroit où j'ai été, je dirais, au bout de ma folie administrative, où j'ai pu expérimenter une foule de choses que je croyais. Ça faisait 20 ans que je développais ça. Et je dois vous avouer très honnêtement que ce matin, je suis très heureux d'être ici, parce que M. Lapierre m'a inspiré drôlement pendant ces 20 ans. Il faut que je vous dise qu'il y a eu une époque où je passais pour un flyer, un sauté.
Oui. Hein, qui proposait... on peut penser ça à votre sujet, hein.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Bon,
mais on n'en meurt pas.
Non, mais c'est parce qu'il prône le plaisir et puis toutes ces choses suspectes. Alors, on sait pas, on se dit peut-être dans son cas, c'est, là, je vous laisse parler.
Non, mais vous voyez, c'est que, j'expérimentais un certain nombre de choses et des fois, je recevais une réceptivité qui était plus ou moins grande. Et là, je me rabattais un peu sur ce que lui disait. Hein. Et donc, ça venait me conforter dans l'orientation que j'étais en train de développer, de croire que dans une organisation, des gens heureux peuvent produire plus et mieux.
Oui. Vous êtes gestionnaire en fait, de formation, Jean-Luc?
C'est
Trump.
Ça. C'est oui. Oui. Alors moi, j'ai un bac en administration, puis une maîtrise en administration publique. Et en 94, j'ai réalisé de façon vraiment pointue, suite à un événement particulier qui m'est arrivé, que le plaisir génère la passion, que la passion engendre l'émulation, la créativité, le dépassement professionnel. Et si le monde y est rendu où il est rendu aujourd'hui, que ce soit sur le plan des arts, sur le plan des sciences, sur le plan des listes, parce qu'il y a eu des gens passionnés, vous allez être d'accord avec moi avec ça. Donc, je me suis dit, il s'agirait d'identifier les constituants du plaisir. Tu mets ça dans une organisation, on devrait obtenir d'excellents résultats. Donc, à ce moment-là, j'ai identifié ce qui m'apparaissait comme étant les constituants du plaisir, qui sont au nombre de 12. Je prétends pas sa vérité, remarquez bien. Et j'ai retransposé dans une organisation. Ce qui a donné la...
Oui, donc ça a été éprouvé, là.
Oui.
Votre approche, vous l'avez éprouvé. Est-ce que c'est indiscret si je vous demande l'événement personnel qui vous a fait transformer votre vision des choses comme gestionnaire?
Ben, en fait, c'est que j'ai eu comme patron, à un moment donné, quelqu'un qui était vraiment exécrable. Et là, j'ai réalisé que ça n'avait pas de bon sens gérer une organisation.
On veut son nom, son adresse.
Non. Et donc, oui, c'est ça. Donc,
c'était l'exemple à pas suivre.
Ouais. Et lui, il avait un MBA. Je me disais, tabarnouche, c'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un qui a un MBA, puis gère le monde comme ça, il y a comme un problème là-dedans. Il y a comme une incompréhension de c'est quoi une organisation. Parce qu'une organisation, selon moi, c'est d'abord avant tout et par-dessus tout, même avant d'être un produit ou un service, là, une question de rapport humain. Mm. Ce sont les êtres humains qui donnent les résultats des organisations. C'est pas les politiques, les directives, les notes de service, les équipements puis l'argent. Vous allez me dire, ça contribue énormément. Oui, c'est vrai. Mais c'est d'abord les êtres humains. Hein? Et malheureusement, je dois vous dire que dans les universités, ce qu'on enseigne, c'est beaucoup le
savoir. Attention, il enseigne dans une université,
mais
lui, c'est ça.
Lui et moi, on se rejoint sur plein de choses.
Laurent Lapierre, vous êtes toujours d'accord? Si jamais là, ça marche plus ce qu'il dit là.
On ne meurt pas d'être déviant.
Non, mais écoutez, c'est que dans les universités, dans les programmes réguliers, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est le savoir-faire et non pas le savoir-être. Mmh. Le savoir-être qui compromet souvent le savoir-faire dans nos organisations. T'sais, on sait très bien que l'altitude qu'une personne peut atteindre dans une organisation dépend à 85% de ses attitudes. Il y a seulement que 15% qui relève du savoir-faire.
Mais c'est le patron dont vous parlez, là, qui était un patron difficile et exécrable, c'est souvent lui, dans une entreprise, c'est souvent l'exécrable qui est nommé patron. C'est reconnu, ça. Ben, je ne sais pas quelle sorte d'exécrable vous avez vu, mais on va souvent voir des gens qui peuvent être très arrivistes, très performants, ou alors, et qui tout à coup deviennent directeurs, et puis c'est très difficile pour les gens qui sont sous eux. Ça se voit beaucoup, ça. Ouais, l'entreprise privilégie souvent ce profil-là.
C'est vrai ce que vous dites là, mais malheureusement, ce ne sont pas eux qui connaissent le plus de succès. D'ailleurs, écoutez, il s'agit...
Là, on parle de succès quand on dit succès. Là. Est-ce qu'on parle juste de succès des avec les employés ou même du succès en termes de rentabilité de l'entreprise?
De succès avec les employés et de rentabilité.
Bon, Laurent Lapierre, c'est vrai ça?
Je pense que les gens maintenant quand sont beaucoup plus prudents quand ils choisissent un président d'entreprise. Les personnes, les rapports entre les personnes, c'est important. On parle de développement durable sur le plan écologique et économique, mais le développement durable, c'est d'abord des personnes. Et des personnes, c'est pas des ressources qu'on vide, c'est des puits qu'on remplit. Ils devraient être plus riches après 15 ans de travail, que c'est pas comme du pétrole qu'on a pompé puis qu'ensuite on jette. Et les gens, je peux prendre seulement l'expérience de Robert Dutton. Robert Dutton, qui est quelqu'un qui est très sensible, il dit que c'est pas aux clous qu'il s'intéresse quand il est président de Rona, c'est aux personnes. Les clous, voilà. Faut être efficace avec les clous, mais c'est les personnes qui vont faire fonctionner l'organisation.
Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Car c'est précisément les solutions d'hier qui ont amené les problèmes d'aujourd'hui. Puis, il s'agit juste de voir le nombre de burn-out que dans les organisations, de dépression, de douleur, de rotation de personnel, de difficultés de retention pour être capable de réaliser ce que je dis là, c'est vrai.
Oui. Combien? Alors, vous avez, Jean-Luc Tremblay, c'est quand vous avez géré l'hôpital de Rouyn-Noranda que vous avez pu mettre en pratique ce que vous aviez pensé et ça a marché.
C'est-à-dire que j'ai pas juste mis ça en pratique là. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans 8 organisations, 4 ans dans chaque, et ça fait 20 ans que je travaille sur ça. Mais disons qu'à Rouyn-Noranda, c'était un des pires établissements qu'il y avait au Québec. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire, déficit accumulé important, carence de médecins spécialistes, d'infirmières, climat détérioré, climat organisationnel totalement détérioré. Et après 2 ans, après avoir mis en application ce concept, ces 12 constituants, on a récupéré le déficit. Non seulement ça, on a augmenté la performance d'1,5 million. On a comblé la carence au niveau des médecins spécialistes, des infirmières, et on a obtenu un succès assez incroyable.
Est-ce que quelqu'un qui le sent pas, là, votre affaire, vous le sentez, vous l'avez imaginé, votre système et tout, vous pouvez l'appliquer certainement avec beaucoup de conviction et puis vous devez convaincre les autres. Mais quelqu'un qui ne le sent pas, là, est-ce qu'il est applicable d'une manière technique? Est-ce que c'est applicable, ça?
Écoutez, actuellement, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle conception de ces coins d'organisation, cette nouvelle compréhension de ce que devrait être une organisation, tant au niveau des employés que des cadres que de l'organisation elle-même, c'est en implantation dans des centaines d'organisations au Québec. Non seulement au Québec, mais en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Hein. Et c'est très simple. Il y a 12 constituants.
Oui, alors là, je vais vous... ça fait 3 fois que vous le dites, puis j'entends tout le monde qui dit, c'est quoi les 12 constituants? C'est quoi les 12 constituants?
Non, mais vous voulez vraiment que je vous parle de ça?
Ben, donnez-les.
Non,
là,
mais vite fait.
En temps radio, là, 12 constituants. De quoi alors, les 12 constituants
De la PPLP, de la performance par le plaisir.
De la PPLP.
C'est ça.
La performance par le plaisir. Alors, sortez vos papiers et le crayon. C'est-tu bon dans la vie privée?
Ou achetez le livre. Oui, oui, hein, non, okay. Mais je vais vous dire. Il y a des passages très intéressants concernant la vie privée.
C'est bon.
Non, mais écoutez, le premier, partageons un rêve. Deuxièmement, cristallisons une valeur. Cristallisons des valeurs. Troisièmement, adoptons des bonnes attitudes. Le quatrième, éliminons les irritants dans l'organisation.
Ah, ben, qu'est-ce que tu fais quand l'irritant, c'est ton patron?
Non, mais écoutez, mais là, on en reparlera. Vous me réinviterez à une autre émission. je vais vous dire ça. Cinquième, consultons, écoutons, impliquons. Sixièmement, fournissons rapidement des réponses et résolvons promptement des problèmes. Septièmement, soyons présents et reconnaissons notre personnel. Hein? Huitièmement, communiquons et informons efficacement. Neuvièmement, embauchons du personnel dynamique. Vous savez quoi? Dans la majorité des organisations, on embauche des gens en fonction de quoi? En fonction de savoir-faire. Hein? Alors que dans le plaisir, on sélectionne les gens en fonction du savoir-être.
On va évaluer ça comment, quelqu'un qui sait être?
Ben, écoutez,
c'est
expliqué dans le livre.
Ouais.
onzième constituant, centrons l'organisation sur l'action. Et finalement, accompagnons, supportons, encourageons. Écoutez, le succès que ce livre a, que cette nouvelle façon de gérer génère, relève uniquement du gros bon sens, du GBS. Moi, je pense que j'ai rien inventé. Absolument.
Vous avez le sens de la formule, par exemple?
Non, mais écoutez, ça a été une réflexion qui s'est échelonnée sur une base de 20 ans. Et si vous mettez ça en application, c'est sûr que vous allez connaître un succès phénoménal au niveau de votre carrière et deuxièmement au niveau de votre organisation.
Vous permettez que je consulte Laurent Lapierre en votre présence?
Ah oui, écoutez, oui. Laurent...
Est-ce qu'il pêche par excès d'enthousiasme?
Quand il dit gros bon sens, je pense que ce qui distingue les bons gestionnaires des gestionnaires qui ont moins de succès, c'est le jugement. si on a le jugement qu'il faut pour travailler avec les personnes, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des résultats. Quand il dit, par exemple, tu sais, le casting, c'est pas vrai rien que pour un film, c'est pas vrai rien qu'au théâtre. Le casting, c'est vrai dans une organisation. Faut savoir choisir les bonnes personnes avec qui on travaille et au conseil d'administration. Hey, non, ça, c'est le rôle du président.
Je m'excuse, écoutez ce qu'il dit là. Je trouve ça génial. C'est tellement vrai ce qu'il dit là. Alors, regardez ce matin, vous, là. Qu'est-ce que vous avez fait?
On vous a casté tous les deux.
Non, mais écoutez.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes ici ou quand vous êtes à la télé, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez en scène, vous jouez votre rôle puis vous livrez la marchandise. Or, la compréhension qu'on a souvent des organisations, c'est aux antipodes de ça. Ce qu'on préconise, c'est l'authenticité. Hein, à certains endroits, c'est très
des mots, ça raconte ben, ça, voilà. L'authenticité, c'est un vrai mot, là. Mais des fois, on dit ça, puis c'est vide de sens, ouais, l'usage qu'on en fait.
Et vous savez quoi? Les melting pots d'authenticité dans nos organisations, là, c'est précisément ça qui fait que nos organisations ont la difficulté à fonctionner. Il faudrait avoir l'honnêteté de se l'avouer, c'est ça la vérité. Si les gens comprendraient que quand tu entres dans une organisation, tu entres en scène pour jouer un rôle, faire ta tâche et livrer la marchandise, on vivrait pas mal moins de problèmes qu'on en vit actuellement.
Ouais, concrètement, en application concrète, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire par rapport à la présence, par exemple, de syndicats, d'ancienneté, de structures qui apparaissent souvent très, très, très rigides aussi. C'est pas mon expertise non plus, là, mais j'imagine que c'est pas aussi facile à appliquer que ça peut se sembler quand on vous écoute.
Non, écoutez, vraiment, c'est vraiment simple. Il y a deux façons, d'ailleurs, de l'appliquer. Je le décris dans le livre. Mais je reviens à quelque chose qui est important. Monsieur Lapierre, c'est un des rares leaders au Québec qui essaie de remettre en question la façon qu'on fonctionne dans les universités.
Mais lui, est-ce que c'est un leader, Laurent Lapierre, ou c'est un observateur du leadership?
C'est un leader observateur. Mm. Hein? Et pourquoi? Parce que moi, ce que je dis, les sciences de l'administration, c'est un des rares domaines scientifiques qui n'a pas eu d'évolution depuis 50 ans. On enseigne encore dans les universités, dans les programmes réguliers, que les quatre fonctions de base en management, c'est PODC. P pour planifier, O organiser, D diriger, C contrôler. Heureusement qu'il y a des gens comme M. Lapierre qui actuellement poussent les universités à réviser leurs programmes. Or, par rapport à la notion d'entrée en scène, si dedans les universités, on s'occuperait beaucoup plus d'enseigner le savoir-être, on vivrait pas autant de problèmes.
Comment ça s'enseigne, ça, le savoir? Oui, mais je demandais, oui.
Alors, moi, j'ai écrit un article qui dit qu'au fond, le leadership, ça s'enseigne pas. On peut apprendre le leadership, on peut développer les gens qui ont leadership. Je parlais tout à l'heure de casting. Le casting est aussi vrai pour le recrutement dans les universités. Si vous n'avez pas dans votre classe des gens qui sont déjà bons, si vous n'avez pas recruté des gens qui sont déjà bons, je vous donnerai des cours pendant 3 ans sur c'est quoi être un bon leader. Si vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour le devenir, ou pour si vous l'êtes pas déjà, à l'École nationale de théâtre, le casting pour recruter les gens dans une école, il y a 300 applications.
Ouais, on fait des auditions.
Mais
qu'est-ce qu'on fait avec un président de compagnie? Quelle sorte d'audition il peut passer?
Il y a des gens pour qui il est trop tard. Mais à partir du moment où on travaille avec des gens qui veulent, il faut être ambitieux, avoir une saine ambition. Il faut avoir le désir d'apprendre. Et d'apprendre par soi-même. Les vrais leaders apprennent par eux-mêmes. C'est pas par hasard qu'ils lisent des biographies et qu'ils s'intéressent à comment font les autres. Ils apprennent des autres. Autant d'eux, ils apprennent d'abord des autres. C'est comme on a tout appris d'abord des autres. On a appris à parler parce qu'on a vu les autres parler. On a appris à marcher parce qu'on a vu les autres marcher. On apprend à diriger aussi de la même façon.
Alors, en conclusion.
En conclusion,
Jean-Luc Tremblay, c'est vous qui avez la conclusion.
Non, mais écoutez, il y a un excellent livre qui s'appelle La performance par le plaisir, qui est un best-seller, dans lequel...
Et
en plus de ça, il y a un excellent site web qui s'appelle www.jeanluctremblay.com, où vous êtes capable d'avoir plus de renseignements. Et je félicite M. Lapierre de prendre les positions qu'il prend actuellement par rapport au contenu universitaire.
Bon, ben alors, c'est comme conclusion, c'était irréprochable. Hein? Alors, le livre, effectivement, c'est « La performance par le plaisir » aux éditions transcontinentales de Jean-Luc Tremblay, notre invité, pour lequel vous avez reçu, en fait, c'est pas un prix, mais qui a été reconnu comme le meilleur livre d'affaires pendant l'année 2007. Alors, il y a bien quelqu'un qui a dû trouver que c'était au moins efficace. Oui. Alors, voilà, « La performance par le plaisir ». Quant à Laurent Lapierre, on continue à le lire dans le Journal de Montréal.
Le lundi, tous les lundis matin.
Alors,
Même pendant les vacances.
Et puis là, vous allez vous occuper beaucoup, je suis certaine, du Super Tuesday.
Ce soir, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais être à CNN.
À CNN ce soir. Et Laurent Lapierre, je le rappelle, il est professeur titulaire à l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de leadership Pierre Péladeau, membre associé de la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux. Merci beaucoup, messieurs. C'est avec vous que cette heure s'achève. On sera de retour après. Il y a Frédéric de Grandprix qui va chanter, Emmanuel Catan, puis toutes sortes d'autres choses dans cette heure qui vient. À tout de suite.